Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un pays grand comme quatre fois la France aux richesses immenses et qui figure pourtant parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète. Un pays dont on a parlé récemment à la faveur d'élections présidentielles et législatives, dont l'Église a sérieusement contesté les résultats. Un pays en proie à la guerre, particulièrement dans l'est du pays, et ce depuis maintenant plus de 20 ans. Au milieu de ces immenses défis se tiennent notamment des pères blancs, des missionnaires d'Afrique, comme le père Bernard Hugeux, de passage en France. Bernard Hugeux, bonjour.
Bonjour.
Et donc, pour cette émission, Bernard Hugeux, un père blanc en République démocratique du Congo. Vous êtes donc bien connu de certains auditeurs qui vous soutiennent dans la région depuis longtemps. Et d'autres vont certainement vous découvrir à la faveur de cette émission. Vous avez reçu, en juillet dernier, à l'occasion de la publication d'un livre, le cardinal Lavigery, prier 15 jours avec le cardinal Lavigery, qui est donc le fondateur des Pères Blancs. Et on vous reçoit donc à nouveau avec plaisir pour... parler, on profite de vos passages pour parler et reparler de la République démocratique du Congo, de votre apostolat et de tous les défis que ce pays, auquel ce pays a à faire face. Beaucoup de choses à dire, alors il faut repréciser donc qui vous êtes donc prêtre, religieux missionnaire, responsable de la formation permanente pour les Pères Blancs pour l'ensemble de l'Afrique, et puis vous avez écrit de multiples ouvrages, on y reviendra. On va partir du principe que les gens ne connaissent pas forcément la République démocratique du Congo. Je disais en introduction, c'est ce pays immense, donc quatre fois la France, avec, je voyais en préparant l'émission, un PIB par habitant, par contre, de 466 dollars, si je ne me trompe pas, quand en France, on est à près de, je ne retrouve plus ma fiche, mais enfin des différences absolument astronomiques, je crois que c'est près de 30 000 euros pour les Français.
Possible, oui.
Donc un pays, on va dire, de contraste, un pays immense, riche, et en même temps un pays qui souffre de la guerre et qui est très pauvre.
Oui, alors bon, c'est pas tout le pays qui est en situation de guerre, mais il y a quand même pas mal de provinces qui actuellement sont en situation de conflit importante. Et puis, effectivement, un contraste énorme entre une minorité de personnes qui sont au pouvoir ou d'hommes d'affaires qui ont souvent des affaires internationales avec des multinationales, etc. Et puis une masse immense de personnes pauvres pour qui le souci principal est qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et de scolariser les enfants, il y a une très forte démographie et il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés parce que officiellement l'école devrait être gratuite, mais dans la pratique il faut payer et les parents n'y arrivent pas.
Qu'est-ce que ça veut dire de manière encore plus précise, parce que nous, vu notre richesse, on a parfois du mal à imaginer en fait ces pays qui sont les pays les plus pauvres de la planète. À quoi ça ressemble le quotidien d'un citoyen de ce pays quand on fait partie de ces pays pauvres?
Mais la grande difficulté, si vous voulez, c'est que la répartition traditionnelle du travail où les hommes étaient chasseurs, pêcheurs, défricheurs, et puis la femme faisait l'agriculture, etc. Il y a un exode rural énorme vers les grandes villes. Une ville comme Kinshasa, vous pouvez avoir 12 millions d'habitants. Bukavu, avec les réfugiés, on est à peu près 1 million également. Donc, des situations où l'homme, en fait, n'a pas de travail. La grande majorité des hommes n'ont pas de travail, donc ce sont les femmes qui portent l'économie du foyer, et en général avec quand vous vous promenez dans une ville comme Bukavu, le long des trottoirs, vous rencontrez des femmes avec les unes avec quelques paires de chaussures à vendre, d'autres un peu de farine, d'autres quelques mangues ou papayes, etc., en espérant vendre quelque chose ce jour-là, parce que c'est de cette vente de la journée que va dépendre le fait qu'on mangera ou on mangera pas le soir.
Et malgré tout, donc, ce sont des familles souvent avec beaucoup d'enfants.
Oui, en tout cas dans la région où je suis, on est encore avec cette idée qu'autour de 8 enfants, c'est bien, c'est une belle famille, quoi.
Donc
c'est normal.
La scolarisation, vous en avez parlé, et la santé.
Alors au niveau de la santé, c'est très très difficile. Souvent, les gens ne peuvent pas payer de factures, donc il y en a qui ne se soignent pas régulièrement. Il y a des gens qui meurent de choses qui seraient soignées sans problème ici.
J'ai vu que récemment, il y avait une épidémie de rougeole.
Régulièrement, il y a une épidémie limite rougeole.
La rougeole qui ne tue pas en France. Mais...
Non, et qui, dans le fond, peut être très bien soignée facilement avec un minimum de règles d'hygiène. Alors, bien sûr, avec la grande épidémie d'Ebola, mais enfin, là, c'est un virus, c'est particulier. Mais non, les gens, justement, nous sollicitent énormément. Ils viennent pleurer pour qu'on paye une facture, parce que si vous ne payez pas la facture, on vous interdit de sortir de l'hôpital. Il y a des gens qui sont là à l'hôpital à attendre que quelqu'un trouve l'argent pour qu'ils puissent en sortir.
Comment on accouche dans ces pays ? C'est pareil, ça paraît trivial comme question, mais on accouche chez soi sans aide médicale, on va
très souvent
quand
on
même à l'hôpital.
Chez soi sans aide médicale, et puis aussi il y a parfois un certain abus de la césarienne. Bon, mais il y a aussi beaucoup de gamines qui accouchent beaucoup trop jeunes, et on doit faire des césariennes parce que le bassin n'est pas préparé à l'accouchement. Donc il y a beaucoup d'accouchements à risque aussi. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a un problème médical, on a facilement des décès.
L'effet de contraste vous frappe à chaque fois quand vous passez de la France à la République démocratique du Congo, ou surtout dans l'autre sens. On imagine que ça doit être assez vertigineux, non ?
Oui, c'est vrai que c'est vertigineux. Et là, je m'interdis de comparer parce que, si vous voulez, si on va avec des amis au restaurant, quand on voit la facture du repas du soir et que ça correspond pratiquement à 4 mois de salaire du cuisinier, si vous commencez à comparer ça, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, je change de planète quelque part chaque fois que je passe de l'un à l'autre, quoi.
Alors, si on continue le zoom, on va donc à l'est du pays. C'est là où vous êtes présent avec d'autres pères blancs, donc ces missionnaires d'Afrique. C'est donc la région, entre autres, du Kivu, donc nord et sud Kivu, près du lac Kivu, donc près de, entre autres, du Rwanda et de l'Ouganda. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette zone et nous dire ce qu'elle a de particulier ?
Ben, elle est paradisiaque. Si on prend la zone dans sa beauté, on est à 1450 mètres d'altitude, avec un lac qui fait à peu près 100 km sur 50, avec un climat de 25 degrés tous les jours, toute l'année. Donc un endroit plein de fleurs, plein de beauté, avec enfin un cadre qui est privilégié. Et puis, au milieu de ce cadre, au milieu de cet écrin, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, quoi, qui est ce combat pour la survie, avec beaucoup des mines aussi qui se trouvent dans ces régions-là, au nord et au sud Kivu, qui sont des mines de terres rares, de minerais rares qu'on utilise pour faire des téléphones portables ou des ordinateurs, et donc où il y a des combats autour de ces mines, la possession de ces mines, et donc beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines dans des conditions déplorables. Et dans les rues de Bukavu, beaucoup d'enfants qui sont non scolarisés, des enfants de la rue, comme on dit, bien que la rue ne fasse pas d'enfants. Et aussi, il y a pour le problème des enfants soldats, des enfants qui travaillent sur des chantiers, beaucoup d'enfants dont on a volé l'enfance, quoi.
Il faut dire aussi donc que c'est une zone qui est en guerre maintenant depuis plus de 20 ans parce qu'il y a une forme d'externalisation de conflits des pays voisins. J'ai vu donc que cette guerre a fait près de 6 millions de morts. C'est parfois difficile en fait de comprendre vu de loin ce qui s'y passe vraiment. On a l'impression que c'est à la fois des opposants au pouvoir central de la République démocratique du Congo, en même temps que c'est les forces armées des pays voisins qui viennent et qui pillent chez vous. Comment vous pourriez nous faire un tableau de la situation à peu près compréhensible?
C'est très difficile de faire un tableau de la situation, en fait. Vous pouvez avoir 70 groupes armés. Bon, qui se trouvent...
70 groupes armés différents,
oui, différents
pour le sud Kivu, vous êtes...
Le sud et nord Kivu, et puis aussi vers le encore un peu plus au nord, vers ce qu'on appelle la région de l'Ituri ou la province orientale. Enfin bon, donc il y a un peu partout des groupes armés. Alors il y a des combats qui ont lieu parce que c'est des conflits territoriaux entre ethnies, par exemple. Bon, voilà. Mais il y a aussi des conquêtes qui se font avec le but de contrôler des territoires où il y a des ressources minières importantes. Et là, on voit bien que derrière ces groupes armés, il y a des autorités ou des hommes d'affaires qui sont connectés souvent avec aussi des multinationales pour essayer de faire d'une exploitation clandestine de ces minerais, quoi.
Donc si on résume, il y a à la fois des conflits locaux, en l'occurrence en juin dernier, j'ai noté qu'il y a eu des affrontements entre deux communautés, Emma et Lendu, mm-hmm. qui avaient valu le déplacement de 300 000 personnes dans le coin, mais il y a aussi donc des milices en fait armées qui sont payées par des multinationales, et puis il y a aussi donc des forces armées des pays voisins qui essayent en fait d'occuper un peu le territoire, c'est ça ?
Non, actuellement on ne peut pas dire que les pays voisins ont des forces armées qui sont présentes sur le territoire. Ce qui ne veut pas dire que les pays voisins...
Ou des forces d'opposition de ces pays, non ?
Voilà, alors oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, il y a un mouvement de libération du Rwanda qui en fait est composé de ce qu'on appelle les anciens génocidaires, c'est-à-dire les gens qu'on a accusés du génocide et qui se sont réfugiés au Congo et qui ont commencé à organiser du coup à s'installer au Congo et à organiser une résistance locale, si vous voulez. Bon, ces gens, actuellement, il y a beaucoup de mouvements parce que également au Burundi, qui est juste le pays à côté du Rwanda, qui a aussi une frontière commune avec le Congo,
Burundi, oui,
il y a aussi des mouvements de libération qui sont en train de se développer contre le gouvernement actuel. Et alors là, il y a toutes sortes de jeux d'alliances qui se jouent et qui sont très difficiles à suivre, mais qui entraînent en fait pour les populations locales une insécurité permanente. Et en sachant que quand il y a une insécurité de ce type-là, les premières cibles des violences, c'est les femmes et les jeunes filles. Et c'est pour ça qu'on emploie souvent l'expression « le viol comme arme de guerre » parce que ces milices vont s'attaquer aux femmes et aux filles et vont terroriser la population et contrôler ainsi un territoire.
On y reviendra parce que ça fait partie de vos apostolats. Juste, si on continue un peu d'essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, ça veut dire qu'en fait, au quotidien, dans le nord et le sud Kivu, il n'y a pas d'armée, de force de police. En fait, les gens vivent à la merci de ces 70 groupes armés qui, de temps en temps, font des vendettas, ou je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, des descentes dans les villages.
Non, il y a l'armée nationale qui elle-même est présente et essaye d'intervenir le plus possible, avec parfois aussi d'ailleurs des dérapages dans leurs interventions, mais il y a aussi des casques bleus qui sont là par milliers. Depuis des décennies et qui en fait n'arrivent pas à contrôler la situation. Il faut dire que dans un pays qui fait 4,5 fois la France, où il n'y a pratiquement pas de route carrossable convenable, c'est très très difficile de pouvoir intervenir au bon moment dans des régions qui sont des forêts ou des savanes presque impraticables et impénétrables. Donc
Casques bleus qui ont mandat pour intervenir en cas de conflit, je veux dire, ils peuvent faire usage des armes, parce que parfois on a l'image du casque bleu qui est condamné à être passif au milieu.
Oui.
De...
Alors justement, il y a ce qui est tout à fait original, c'est qu'on a ce qu'on appelle une force d'intervention rapide qui dépend de l'ONU. Et qui a été, donc il y a eu tout un débat jusqu'à avant qu'on autorise cette force, où vous trouvez des soldats qui viennent entre autres du Malawi, de la Tanzanie, d'Afrique du Sud, et qui ont le droit de prendre des initiatives et d'attaquer des îlots de résistance ou des îlots terroristes, etc.
Donc en l'occurrence, la difficulté, c'est que le territoire est très difficile à tenir pour des raisons en fait d'étendue, des raisons logistiques. C'est la principale raison qui fait que les forces internationales et gouvernementales n'arrivent pas à faire la loi.
Oui, il y a aussi le fait du problème des motivations de ces casques bleus, parce qu'il faut être réaliste. À part cette force d'intervention rapide, les autres casques bleus viennent en général de pays pauvres, comme le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, ou bien la Colombie, etc. Et le casque bleu qui va là-bas, il ne va pas donner sa vie pour les Congolais. C'est un brave type qui a accepté de partir là-bas comme casque bleu parce qu'il espère avoir une prime et améliorer, pouvoir se construire une maison peut-être quand il rentrera. Mais il n'a pas du tout l'intention de se prendre une balle. Et donc ces gens, ils sont là, ils se baladent, ils circulent avec des voitures blindées, ils sont dans des camps bien protégés. Et quand on voit les milliers de personnes qui se font massacrer chaque année dans la population, et puis le drame quand 3 ou 4 casques bleus se sont fait tuer sur une année en opération, on se rend compte que ils s'expose pas énormément.
Avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais qu'on parle un petit peu des élections récentes. On en a parlé à cette antenne donc l'année dernière. Donc il y a eu des élections donc présidentielles et législatives en République démocratique du Congo qui ont vu la victoire donc après Joseph Kabila de Félix. Vous avez m'aidé à prononcer Tshisekedi, c'est comme ça.
Tshisekedi.
Tshisekedi, ouais. Que l'on dit être un homme de paille de Joseph Kabila. L'Église a largement contesté les résultats de ces élections. Il y a eu en janvier dernier des marches pacifiques contre les résultats de ces élections qui ont été interdites, et puis finalement quand même des manifestations. Il y a eu un mort, si je me souviens bien. Que dire des résultats de ces élections ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Ce qu'on peut d'abord dire, c'est que ça a été une très grande mobilisation de la population souhaitant une alternance. Alors, les gens sont allés nombreux pour voter. Alors, la question qui est posée, entre autres, par la conférence épiscopale congolaise, c'est de la publication des résultats. Il y avait beaucoup d'observateurs qui avaient été formés et, si vous voulez, encadrés par l'Église, parce qu'on se souvenait des élections précédentes qui avaient été mises en question également.
Alors, on dit qu'il y en avait un dans chaque bureau de vote, c'est, ou presque. C'est...
En tout cas, on parle de 40 000 observateurs quand même. Bon, il y en a qui contestent ces chiffres, mais je pense qu'il y avait non seulement ça, mais il y avait aussi une salle de traitement des résultats où ils étaient plusieurs centaines de gens formés à ce travail-là et qui avaient d'ailleurs été subventionnés par la communauté européenne. Donc c'était pas n'importe quoi. Alors ils ont eu d'autres résultats que les résultats officiels et en fait on dit nous avons nos chiffres mais en fait les chiffres officiels n'ont jamais été vraiment connus. Bon, alors du coup ça a jeté un doute quant aux résultats, on s'est posé la question d'accords secrets, etc. Et la question reste soulevée. Bon, ce qu'on craignait c'est que quand le résultat serait proclamé il y aurait des violences. Le fait que il y ait eu une sorte d'accord qui s'est fait a fait que les gens ont été surpris par les résultats.
Expliquez peut-être les termes de l'accord, c'est que...
Ben, c'est-à-dire que, bon... C'est
celui qui a été élu a lâché un peu de lest auprès de l'opposition
On ne sait pas très bien la façon dont il a été élu, mais on pensait que le candidat officiel du président sortant serait imposé alors qu'il n'avait que 20% des votes, quoi. Et là, ça aurait provoqué des violences. Et puis tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre, de l'opposition... Bon, à propos desquels on a mis en question les votes, mais au moins, en tout cas, la surprise a été que son nom sorte, et ça a d'une certaine façon neutralisé les violences, et donc du coup, on a pu dire il y a une transition pacifique.
Alors que dire pour finir des réactions de la communauté internationale en France? Donc le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, a commencé par dire la surprise ou l'inquiétude de la France suite au résultat de ces élections. Et puis après, à la faveur d'un voyage en République démocratique du Congo, c'était en mai dernier, il a salué une vraie élection démocratique validée par la Cour constitutionnelle et validée par l'Union africaine.
Oui, alors c'est là que on voit un petit peu comment on joue la diplomatie internationale, parce que l'Union européenne a mis en question les conditions des élections, entre autres parce que la conférence épiscopale et d'autres sources avaient mis en question ces élections. Bon, l'Union africaine également, c'est à ce moment-là, c'était le secrétaire, parce que c'était le secrétaire tournant, c'était le président du Rwanda, Kagame. Bon, ils ont mis en question ces résultats. Bon, il y a eu une période de flottement. Pour finir, le fait que l'alternance soit passée sans violence et que la Cour constitutionnelle ait confirmé les résultats, même s'il y a eu beaucoup de points d'interrogation quant à la composition de cette Cour, a fait que pour finir, on s'est dit, soyons réalistes, ça a été officiellement reconnu, il n'y a pas eu de violence, donc travaillons avec ceux qui ont été élus. Voilà.
Voilà, un parti pris qui peut être sujet à interrogation, c'est ce qu'on entend en tout cas entre les lignes. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour voir davantage la présence des Pères Blancs donc dans ces régions de l'Est de la République démocratique du Congo, donc au Kivu et entre autres vos apostolats. Du coup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour ceux qui par hasard nous quitteraient maintenant, je le dis en quelques mots, vous accompagnez donc trois lieux, un lieu d'accueil des femmes victimes de violences de guerre, d'enfants des rues et puis un lieu de formation pour les enfants qui travaillent dans les mines. Il y a une association pour ça qui vous soutient. Si on veut avoir des informations ou vous soutenir financièrement, et Dieu sait si vous en avez besoin, une seule adresse email, germe d'espérance, germe avec un S, germe d'espérance, tout accroché sans accent, @gmail.com.
Celui qui... présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernard Hugues, un père blanc en RDC, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Bernard Hugues, donc prêtre religieux missionnaire qui est avec nous ce matin, responsable de la formation permanente pour les pères blancs pour l'ensemble de l'Afrique. Comme je le disais au début de l'émission, enfin quoi que non, j'en ai un peu rajouté, émission donc qui a été enregistrée en juillet dernier à l'occasion de votre passage à Toulouse. Les auditeurs s'en souviennent peut-être, vous étiez venu aussi parler d'un ouvrage sur le cardinal Lavigerie, qui est donc le fondateur des Pères Blancs, dont vous fêtez cette année les 150 ans de votre fondation. Dans cette deuxième partie, on voulait donc davantage parler de votre apostolat à vous. Il faut peut-être dire un mot sur vos confrères, puisque dans l'Est, j'ai cru comprendre qu'en République démocratique du Congo, il y a 72 missionnaires Pères Blancs. Alors ça a peut-être un peu changé. Et vous êtes particulièrement présent à l'Est du pays.
Oui, alors on est présent à Kinshasa, mais aussi principalement à l'Est du pays, oui.
Donc ces Pères Blancs, que font-ils? Ils sont en paroisse pour l'essentiel, ou est-ce qu'ils ont des apostolats comme vous, on va dire, proches des périphéries?
Alors, ils sont majoritairement dans du travail de paroisse ou d'animation de la jeunesse. Nous avons aussi pas mal de maisons de formation, parce que même si nous sommes de moins en moins nombreux au niveau des membres qui ont prononcé leur vœu définitif, on a près de 500 jeunes en formation pour l'ensemble de la congrégation, mais rien que pour le Congo, il y a plus de 100 jeunes qui sont en formation aussi. Donc ce qui veut dire qu'il y a aussi sur le Congo beaucoup de jeunes en formation et de formateurs. Donc ça aussi, ça nous prend pas mal d'énergie et d'investissement. Alors, des gens qui sont engagés de la même façon que moi-même, c'est plus rare. Je crois que de ce côté-là, je suis un petit peu le seul qui a investi autant dans l'accueil des victimes. Mais je dois dire que mes confrères sont très solidaires de cet engagement-là. Et puis, nous avons aussi des commissions justice et paix qui sont présentes dans les différents secteurs où nous travaillons.
Rappelez ce que c'est que les commissions justice et paix.
Donc, en fait, dans l'Église, surtout à la suite du Concile, on a voulu créer des commissions qui s'occupaient particulièrement de la question des droits humains, avec donc des personnes formées pour cela et qui font du plaidoyer et également des interventions pour protéger les personnes victimes agir dans le cas donc d'abus sur par rapport aux droits humains. Et donc il y a des confrères qui sont engagés là-dedans, et donc ce qui fait que je suis pas le seul à m'occuper de victimes, mais disons que de la façon dont je le fais, je suis un petit peu, je crois, unique dans notre coin.
Alors vous avez passé 40 ans en RDC, c'est ça, avant d'être à Toulouse?
Pas tout à fait, parce que j'étais également en Tanzanie. Disons que ça fait autour de 25 ans pour la RDC, oui.
Voilà, 25 ans RDC, donc vous êtes, vous avez été à Toulouse, vous le disiez, donc en juillet dernier, où vous avez enseigné à l'Institut catholique de Toulouse, et puis en 2009, vous avez choisi donc de retourner en République démocratique du Congo, et entre autres là-bas, donc, vous avez monté un centre, c'est le centre Nyota, pour accueillir les femmes victimes de violences de guerre. Violence, le mot est faible, 100 000 femmes victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo. Vous pouvez nous parler de cette réalité terrible qui est que voilà, le viol est devenu donc une manière de détruire les familles, les communautés et d'une certaine manière parfois presque le pays, non?
Oui, alors d'abord je préciserai que je ne suis pas à l'origine de ce centre. Nyota, ça veut dire étoile. En fait, c'est un centre qui avait été fondé par des religieuses pour accueillir des jeunes filles en situation sociale difficile. Le centre a été détruit, pillé pendant la guerre. Des laïcs ont repris le centre, qui dépend toujours du diocèse, mais n'avait plus aucun moyen matériel. Et en fait, c'est le réseau Germe d'Espérance, donc j'avais démarré en quittant Toulouse et en retournant au Congo, qui maintenant finance ce centre, quoi. Voilà. Donc je suis pas à l'origine, mais je l'anime, j'essaie d'animer les animateurs, les enseignants, etc. Alors il accueille
250 femmes,
pratiquement 200 jeunes filles, jeunes femmes, quelques enfants aussi, pendant la journée. et ces personnes sont normalement dans des familles d'accueil ou dans leur propre famille. Ce sont des gens qui sont victimes d'abus. C'est pas uniquement des abus sexuels, parce que quand on est dans la situation que nous venons de décrire au niveau de la pauvreté, un abus c'est aussi être dans la rue, un abus c'est de pas pouvoir étudier, c'est la misère. Alors dans certains cas, c'est la prostitution de mineurs, ça peut être le viol utilisé comme arme de guerre pour contrôler des régions. Donc il y a beaucoup de formes d'abus et beaucoup de formes de fragilité, et ces personnes viennent là-bas. Normalement, ils suivent un cycle de 3 ans où on leur donne le niveau de l'école primaire, elles passent un jury pour l'école primaire, et en même temps, on leur donne un métier. On leur apprend la cuisine, la coupe et couture, on leur donne une éducation à la vie, on va aussi lancer sans doute une formation à la coiffure. Et à la fin du cycle, celles qui sont capables, on leur donne un kit de réinsertion, ce qui fait qu'un certain nombre de ces jeunes filles, après cela, commencent un atelier de couture, font de la cuisine au marché et souvent prennent en charge leur propre famille.
À propos du viol de guerre, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots davantage? Vous expliquez qu'en fait c'est un acte évidemment qui reste très très grave, enfin qui est très très grave dans la culture locale. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre vu de loin, c'est que c'est devant la gravité de l'acte, c'est que ce fléau continue d'exister, alors que précédemment dans l'émission, vous expliquiez qu'il y avait quand même à peu près des forces de l'ordre, même si la mission internationale est relativement passive. Ça se passe comment en fait? Les gens arrivent dans les villages et violent comme ça toutes les femmes du village?
Oui, alors dans certains cas, ce sont des milices qui effectivement entourent le village, pénètrent dans les maisons et font un viol systématique de toutes les femmes et les jeunes filles, et souvent amenant les filles ensuite en esclavage sexuel dans des camps qui sont cachés dans la forêt ou ailleurs, etc. Et souvent ces viols se font devant le mari, devant les enfants, parfois même on tue le mari. Bon, ce sont des situations excessivement cruelles, mais il y a aussi plein d'autres viols qui peuvent se faire parce que ces milices sont cachées. Il suffit que la femme aille au champ ou aille à la rivière pour qu'elle se fasse agresser, donc c'est quelque chose qu'on rencontre un peu partout. Alors la question du viol est une... D'après les Congolais disent que le viol a pris une ampleur très importante à la suite du génocide du Rwanda et de l'arrivée de ce qu'on a appelé les génocidaires, etc. C'est assez difficile de vérifier ça, mais en tout cas, moi-même, je suis arrivé au Congo en 71 et on parlait pas de ce type de viol quand j'y étais. C'est quand je suis revenu en 2009 qu'on parlait partout de cela. Donc c'est quelque chose de relativement récent, ces viols collectifs, systématiques, etc. Et qu'on appelle viol de guerre, arme de guerre, dans le sens que lorsque vous violez une femme, vous la détruisez dans son corps, dans son psychisme, mais en touchant à la femme, vous touchez à la famille, vous touchez à tout le tissu social. Ce qui veut dire que la reconstruction de la femme devrait aussi passer par la reconstruction de tout le tissu social. Ce qui fait qu'on est en train de développer des méthodes qu'on appelle...
C'est les femmes qui sont rejetées aussi, rejetées de leur famille, de leur village.
Il y a une double peine, c'est-à-dire elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, ensuite parfois le mari n'en veut plus, par peur de maladie ou parce que la femme elle-même a honte, se sent souillée, se sent coupable. Pour les femmes, c'est quelque chose de terrible au niveau de leur identité profonde, mais parfois aussi les maris n'arrivent plus à les accepter. Et puis la société, si ce sont des jeunes filles qui étaient fiancées, évidemment pour le fiancé, c'est très très difficile. Donc elles ont cette double peine de l'ostracisme et du rejet par la société. Ce qui veut dire que dans le travail que nous faisons, non seulement il faut les aider à reconstruire l'estime de soi, mais aussi les aider à se réinsérer socialement et économiquement.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du docteur Mukwege, qui a été prix Nobel, je crois que c'est prix Nobel 2018, qui est, dit-on, le médecin qui répare les femmes, c'est-à-dire en fait qui opère ces femmes et qui essaie de leur redonner une dignité après qu'elles aient été victimes de violences de guerre. C'est un homme extrêmement courageux. Hein. J'ai vu que lui aussi, il exerçait en Europe et même en France, il avait une vie tranquille et puis il a décidé de retourner en République démocratique du Congo, et vous le connaissez, je crois.
Oui, je le connais. Je fais partie d'un groupe de travail qu'il a lancé. Je l'ai rencontré plusieurs fois. J'allais dire que lui, dans son travail, c'est un travail de médecin, de chirurgien, mais ça n'empêche que la fondation, donc on est dans la même ville, hein, la fondation qu'il a créée s'occupe aussi d'un suivi de ces femmes jusqu'à un certain point, mais vu le nombre de victimes, il y a tout un problème de suivi de toutes ces personnes. Alors bien sûr, on parle énormément de lui parce que c'est un personnage médiatique qui a d'ailleurs lui-même failli être assassiné plusieurs fois, qui prend des positions politiques très claires,
qui est très courageux. Et qui reste.
La dernière fois qu'il est parti, il avait presque hésité à revenir. Mais ce sont les femmes qui se sont cotisées pour lui payer le billet d'avion pour qu'il revienne. Donc, il faut dire qu'il vit... sa maison est entourée de clôtures qui font 4 mètres de haut avec des casques bleus autour, quand même. Donc, il vit... Quand il circule, il est entouré de casques bleus. Donc, c'est un homme qui, quand même, est en danger. Mais qui a décidé aussi de faire un énorme travail de plaidoyer. Il a eu le prix Sakharov. Il a eu le prix Nobel. Bon, mais le discours sur l'arme de guerre, etc. Bon, c'est le discours que lui développe et qui est vrai. Ce qu'il dit aussi, c'est que quand on lui donne des prix pour justement réparer les femmes, il dit, moi, j'aimerais bien que cet argent ou les prix que vous me donnez pour réparer les femmes, on l'utilise plutôt pour faire en sorte qu'on ne viole plus de femmes.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, c'est que vous, comme lui et peut-être d'autres, qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que en amont... le travail entre guillemets de prévention soit réel et que ces femmes ne soient plus violées.
Mais c'est de ramener la paix et l'ordre dans l'est du pays. C'est aussi lutter contre l'impunité des violeurs. Moi, je dois dire que dans toutes les personnes que j'ai, j'en ai pas une seule qui a osé faire une démarche auprès d'un tribunal, persuadé que ça n'allait jamais aboutir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu certains procès et que certains procès n'ont pas abouti, mais c'est absolument... c'est à peu près rien par rapport au nombre de victimes. Donc, si on ne ramène pas la paix, si on ne contrôle pas le pouvoir judiciaire, si les hommes politiques vivent ont l'impunité, etc., ben, le viol va continuer à être une banalité. Et d'ailleurs, ce qui est grave, c'est qu'il y a une banalisation du viol jusque maintenant dans la société civile. C'est-à-dire que cette impunité fait que un pourcentage important de personnes violées sont simplement violées dans leur quartier, dans leur famille, dans le milieu où ils vivent, parce que c'est banalisé. Et dans ce cas-là, c'est pas des hommes en uniforme. Donc il y a derrière la question du viol, si vous voulez, une société qui est complètement déstructurée, où il y a un problème énorme d'ordre et de pouvoir, et le viol devient une sorte de modèle de gestion des problèmes. La violence, un modèle de gestion des problèmes. C'est-à-dire, là où on ferait de la médiation, on règle ça par la violence. Et aujourd'hui, elle est omniprésente.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, avant qu'on fasse une deuxième pause, de votre autre centre qui accueille les enfants sorciers? Et puis je vous propose qu'on finira cette émission en reparlant de manière plus approfondie, on va dire, du pillage, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, vous nous le direz, par un certain nombre d'entreprises internationales de cette partie de la République démocratique du Congo et du coup de toute la violence que ça engendre. Mais sur les enfants sorciers, c'est ce centre que... Centre Kabura, c'est ça ?
Et Cabana.
Cabana, pardon.
Cabana, oui. C'est du machi, qui est une langue locale, ce qui veut dire être à la maison, quoi. Y a un phénomène que l'on rencontre et qui semble assez spécifique au Congo, parce qu'on en entend, quand j'en parle dans d'autres pays d'Afrique, les gens sont étonnés. Si vous voulez, la croyance dans la sorcellerie est généralisée. Bon, pour les gens, quand il y a un problème, très souvent, l'explication, c'est la sorcellerie. Bon. Dans le temps, la personne qu'on accusait d'être la cause de la sorcellerie était la personne la plus vénérable de la communauté. Très souvent, c'était des femmes âgées, des femmes stériles, des femmes handicapées, etc. C'est-à-dire une personne qui ne peut pas se protéger. Mais dans les grandes villes, on n'a plus cette victime-là. Et donc, ce qui se passe dans ces familles, dont un grand nombre sont des familles recomposées dans ces bidonvilles, dans ces cités africaines, très souvent, les enfants, surtout les filles entre 8 et 12 ans, sont les personnes vulnérables, surtout quand elles sont le produit d'un autre mariage. Et donc, du coup, elles sont mal accueillies dans le nouveau mariage. Et très souvent, ces accusations de sorcellerie viennent de la famille même et du conjoint rapporté, si vous voulez.
Pourquoi c'est une manière de se débarrasser d'un enfant qui n'est pas le sien?
Parfois, c'est une manière de se débarrasser d'un enfant parce que sur le plan de la misère, etc., on n'arrive pas à les nourrir tous. Mais c'est aussi, on a besoin d'une victime que l'on va désigner comme étant la cause de tous les malheurs que l'on a. Et donc, ce n'est plus la vieille femme du village, mais c'est un enfant, c'est une petite fille qui ne peut pas se défendre et qui donc va être accusée d'être la cause de tous les malheurs, des morts, des maladies, des accidents qui se passent, parce qu'on a bien d'une explication de type sorcier.
Donc ça, c'est dans le cadre des familles. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils d'enfants sorciers?
Mais c'est essentiellement, ou bien dans le quartier, quoi. Mais il suffit qu'un enfant, par exemple, parle la nuit.
Mais c'est-à-dire qu'à un moment, on décide de les exclure et ils se retrouvent à la rue, c'est ça?
Il y a un moment où on dit « elle est sorcière ». Et à ce moment-là, il y a une espèce de mobilisation générale.
Ça vient des enfants des rues, c'est ça ou...
Oh, mais non, ça peut être à la maison qu'on dit qu'elle est sorcière et qu'on la chasse de la maison. Bon, mais alors à ce moment-là, elle se retrouve à la rue, mais les enfants sorciers ne peuvent pas fréquenter les autres enfants de la rue. Et c'est pour ça que le centre Ekabana a été fondé.
C'est-à-dire que même au milieu des enfants des rues, ils sont ostracisés.
Ah oui, tout ce qui est sorcier, tout le monde en a peur. Parce que quand la fondatrice du centre Ekabana a voulu récupérer ses enfants pour les placer dans des centres d'accueil pour enfants des rues, on a dit non, nous on ne prend pas des sorciers ici. Donc elle a dû créer un centre spécifique pour accueillir ce type d'enfants. Et donc c'est là que ces enfants sont accueillis et ils sont scolarisés, ils sont accompagnés, ils ont besoin d'une aide psychologique. Enfin, vous imaginez, pour un enfant être chassé par sa propre famille et accusé de sorcellerie. Et d'ailleurs, certains enfants reconnaissent qu'ils sont sorciers parce qu'on leur a inculqué qu'ils étaient sorciers et que c'était eux qui, parce qu'ils parlent la nuit, parce qu'ils sont peut-être somnambules ou simplement parce qu'on a besoin d'une victime.
Bon. Vous en accueillez combien du coup dans ce centre Ekabana?
Là et Ekabana, ça dépend un peu de l'année, des années, mais il y a une trentaine, entre 20 et 30 enfants qui sont là donc en internat, mais une partie de ces enfants sont aussi des orphelins ou des enfants de prostituées qui ne peuvent pas s'en occuper, et il y a toujours un pourcentage d'enfants qui sont des enfants accusés de sorcellerie.
Et donc vous en accueillez une trentaine, et les besoins, ça serait de... Il faudrait pouvoir en accueillir quoi? Des milliers? Des centaines?
Oh, certainement beaucoup plus, oui, mais c'est pas le seul centre qui existe. Maintenant, il y a quand même d'autres lieux où on s'en occupe. Mais bien sûr, il faudrait beaucoup plus de centres que cela, mais souvent...
C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne trouvent pas ce type de lieu d'accueil encore.
Ah, oui, il y en a qui n'ont pas ce type de lieu d'accueil, oui. Qui ne savent même pas qu'il existe, peut-être, dans une immense ville comme celle-là. C'est parfois de la police elle-même qui amène des enfants qu'ils ont ramassés dans la rue, qu'on a voulu brûler ou tuer parce qu'on les accusait de sorcellerie.
On va faire une deuxième pause, Bernard Hugeux, et on va redonner surtout le mail de votre association Germe d'Espérance qui soutient et qui aide toutes ces personnes victimes de ces violences terrifiantes. germedespérance@gmail.com, germe avec un S, le tout accroché sans accent, germedespérance@gmail.com. C'est à cette adresse email qu'il faut s'adresser pour avoir plus d'informations, pour rejoindre votre association et puis pour soutenir financièrement votre association. Peut-être en deux mots, avec 10 euros par mois, vous faites quoi?
Ben avec 10 euros par mois, si vous voulez, on arrive déjà, donc ça nous fait 120 euros par an. Ça veut dire qu'avec ça, on peut quand même scolariser au moins un enfant, mais peut-être deux, ça dépend s'il est à l'école primaire ou à l'école secondaire.
Donc avec 120 euros, vous pouvez accueillir un enfant, en gros, c'est ça?
Oui, certainement.
Voilà, 120 euros, ça fait donc 10 euros par mois, j'imagine qu'on peut aussi faire des virements. Germe d'Espérance, germe avec un S, d'Espérance sans accent, germedespérance@gmail.com. On fait une courte pause et on vous retrouve pour continuer de parler de votre apostolat là-bas, et puis surtout de ces entreprises, ces multinationales qui pillent la République démocratique du Congo. Thank you.
Emmanuel Pella.
Bernard Hugeux, un père blanc en République démocratique du Congo, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, Bernard Hugeux est prêtre religieux missionnaire d'Afrique et responsable de la formation permanente des pères blancs, autre nom des missionnaires d'Afrique, pour l'ensemble de ce continent, et donc à la tête, ou en tout cas coordonnant une association Germe d'Espérance, qui vient en aide donc à des populations qui sont dans des situations terribles à l'est de la République démocratique du Congo. On en parlait donc dans la deuxième partie d'émission, des femmes victimes de violences en tout genre et entre autres de viols de guerre, des femmes, des enfants qui sont démunis, entre autres des enfants sorciers. Et donc il y a un troisième lieu d'accueil. On va peut-être commencer par ça. Ce troisième lieu d'accueil, ce sont des enfants que vous aidez à scolariser et puis à avoir une formation en menuiserie qui sont des enfants qui travaillent dans les mines. Le centre s'appelle Kamituga, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Parlez-nous de ce dernier centre et puis après on enchaînera sur cette réalité en RDC du travail des enfants et autres situations de presque d'esclavagisme.
Oui, on peut parler d'un esclavagisme moderne. Hein. Donc les enfants, Kamituga, c'est le nom d'une paroisse qui se trouve dans un diocèse, le diocèse d'Uvira, donc qui n'est pas celui où je travaille, mais où se trouvent des mines, entre autres des mines d'or, et où des enfants travaillent dans des conditions évidemment terribles, parce que pratiquement, même si on leur donne, si on les paye, étant donné que sur ces espaces-là, la nourriture, tout coûte très très cher, si bien que l'enfant, il a juste de quoi se maintenir en vie, quoi. Il a beaucoup de peine à payer, parce qu'il y en a qui le font pour se payer les études, mais c'est très très difficile de mettre de l'argent de côté. Ce sont des petits, puis régulièrement, il y a des glissements de terrain, parce que c'est ce qu'on appelle de l'orpaillage clandestin, ils travaillent dans des mines, dans le cas, par exemple, de la recherche de ce qu'on appelle le coltan, qu'on utilise pour faire des téléphone. Donc ce sont des
chantiers qui ne sont pas du tout sécurisés.
Voilà, des chantiers qui ne sont pas sécurisés, mais qui sont contrôlés par des milices très souvent, qui donc ponctionnent aussi. C'est eux qui rachètent ce que l'enfant produit et il n'a pas grand-chose.
Donc il faut quand même juste donc repréciser, ce sont des gens qui travaillent avec des personnes armées qui les surveillent.
C'est-à-dire les mines sont contrôlées par ces personnes. Oui.
Donc ça, c'est
donc,
les enfants.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une école de menuiserie où on l'a recréée parce qu'elle était détruite. Encore une fois, j'essaie toujours de m'engager dans des projets qui existent déjà, qui ont été reconnus par le diocèse ou la paroisse, parce que je sais que je ne suis pas éternel et que donc je ne suis pas jamais sûr du temps que je vais rester sur place. Et je sais que quand j'ai quitté, ça j'ai vécu dans le passé, une fois que je suis plus sur place, les dons suivent beaucoup moins, quoi. Et donc voilà, il faut qu'il y ait quand même une structure qui ne dépend pas uniquement de moi. Et donc on a relancé cette école qui est une école de menuiserie où en un an on apprend à des jeunes, une quarantaine de jeunes, à faire des tables, des chaises, une porte, etc. De façon à ce que, et on leur donne à la fin un petit kit de menuisier qui permet ensuite de retourner au village, d'aller ailleurs et de devenir autonome sur le plan économique, de ne plus avoir besoin d'aller dans les mines. Et donc, dans l'espoir que ces jeunes puissent un jour se marier et avoir une vie un peu stable.
Alors, ces mines, on en a parlé, donc, de la richesse des sous-sols de la République démocratique du Congo. Elle est, relativement connue de l'opinion publique. On sait et on entend dire que, donc, ce sont des multinationales qui exploitent ces lieux. On se demande toujours, dans le fond, s'il n'y a pas aussi des entreprises françaises. Et au final, si dans nos portables ne finit pas par arriver certains de ces minerais. En tout cas, quand on est un petit peu averti, c'est une question qu'on finit par se poser. Il y a même un documentaire qui est paru sur ce sujet, intitulé « Du sang dans nos portables », qui plante le décor. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet-là ?
Oui, mais que ce soit du sang dans nos portables ou bien l'émission Cache Investigation sur la fabrication des téléphones portables, on insiste bien sur le fait que ce sont des minerais particuliers, des alliages particuliers dont on a besoin pour la fabrication d'électronique, qui sont rares. et dont une quantité importante, et peut-être la quantité la plus importante sur le plan mondial, se trouve dans ces régions-là des Grands Lacs. Donc, toutes les multinationales...
C'est une très grande partie de ce marché-là.
Oui.
Qui vient de là.
C'est ça. Parce que c'est la partie où le minerai est le plus concentré. Enfin, si vous voyez le coltan, vous découvrirez peut-être que 60% ou 70% du coltan dans le monde se trouve dans ces régions-là. Donc, du coup, les multinationales qui ont besoin de fabriquer des téléphones, etc., vont utiliser ce minerai. Alors, c'est pas forcément Nokia qui va aller ou Samsung qui va aller se promener au Congo pour récupérer ça. Mais il y a toute une série d'intermédiaires qui vont ensuite... donc exporter ce minerai qui va être transformé et ensuite vendu à des fabricants de téléphones qui ne vont pas toujours se poser la question de l'origine. Là se pose évidemment la question de la traçabilité. Certains disent nous avons fait une traçabilité et nous pouvons vous garantir que c'est propre. Nous qui vivons sur place, nous savons que la traçabilité est pratiquement impossible. C'est-à-dire qu'avec tous les intermédiaires qu'il y a, vous n'êtes jamais sûr qu'il n'y a pas un gamin quelque part qui est intervenu dans la fabrication de ce minerai. Donc on est, parce qu'on est dans une zone justement qui n'est pas complètement contrôlée, où il y a beaucoup de milices, etc. Donc ça pose la question de la garantie de la traçabilité.
Est-ce qu'on peut dire aussi du sang dans nos colliers, voire dans nos bagues de fiançailles, parce qu'il y a aussi tout l'aspect joaillerie, non?
Oui, alors il y a eu ça, il y a eu les fameuses, le film aussi sur le diamant du sang, etc.
Oui, c'est une réalité en République démocratique du Congo aussi.
On a tout au Congo. On a de l'or, on a du diamant. Au Kassai, il y a plein de mines de diamants. Où là aussi, il y a presque toujours, si vous voulez, à côté des grosses entreprises, il y a des clandestins ou des gens qui essaient de se débrouiller parce qu'il y a toujours des comptoirs qui rachètent ça. Tout récemment, au Katanga, on vient d'expulser 10 000 clandestins qui étaient dans des mines et dans des situations d'ailleurs très dangereuses. Dans une mine de cobalt, il y a eu l'écroulement de la mine qui était utilisée par des clandestins dans des conditions très dangereuses. Donc les clandestins non seulement sont très mal payés mais travaillent dans des conditions très dangereuses. Alors le gouvernement a lancé un nouveau code minier. On essaye de réorganiser ça, mais on voit bien qu'il restera toujours une marge de gens qui ont intérêt à passer par des réseaux clandestins qui sont souvent des réseaux mafieux. Parce qu'en fait, on ne déclare pas, on ne paye pas les taxes. Et d'ailleurs, on est étonné de voir le peu de taxes qui est payé par ces grandes sociétés minières quand on voit ce qu'elles produisent et ce qu'elles payent comme taxes. Ça pose des questions. Et là, des mouvements comme Amnesty International ou Global Witness, etc., sont des gens qui régulièrement produisent des rapports en disant « Bon, tout le monde se pose des questions ».
Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience quand vous revenez en France au fur et à mesure des années? Vous êtes maintenant, ça fait maintenant 10 ans que vous êtes retourné là-bas. C'est des choses dont on parle de plus en plus, que les gens commencent à s'interroger et à essayer de revoir leur mode de consommation, à être plus exigeant. Trop lent, c'est trop lent.
Je pense qu'il y a une prise de conscience mondiale qu'on ne peut plus continuer à vivre comme on vit. Alors, vous avez des conséquences par rapport à l'agriculture bio, vous avez des conséquences par rapport au textile, à la suite de, justement, ce qui s'est passé, je ne sais plus si c'était au Sri Lanka ou ailleurs, où on s'est
Bangladesh.
Rendu compte, au Bangladesh, que des grandes marques n'avaient pas du tout honte de faire travailler des enfants pendant 14 heures par jour en les payant avec des arachides. Enfin bon, donc on s'est bien rendu compte que là, il y avait un problème. Bon, des émissions comme Cache Investigation, du sang dans nos portables, etc., sensibilisent les gens, mais dans le fond, ils se disent quelle alternative ? Oui. Si vous allez dans une grande surface qui vend de l'électronique et qu'on vous dit ici, ce téléphone, voilà, il vous coûtera 15% de plus, mais nous vous garantissons qu'il est propre. Tandis que l'autre, comme dit l'émission, il y a du sang dans ce portable. Parce que ce sont des gamins et des gamins qui sont morts parfois en cherchant le minerai. Je pense que beaucoup de gens de bonne volonté se diraient « Bon, mais moi, je préfère payer 15% de plus, mais être sûr de ne pas participer à l'exploitation d'enfants. » Donc, mais en fait, cette alternative n'existe pas pour le moment. Donc, on se dit « Oui, c'est scandaleux, c'est grave. Mais que faire ?» Et là, on est un petit peu pris au dépourvu. Mais je pense que déjà, le fait d'être conscient que nous vivons un train de vie infiniment supérieur au reste de l'humanité et que c'est des enfants et des esclaves, en fait, modernes qui sont investis là-dedans. Bon, le fait d'en être conscient, moi, je pense qu'il y a petit à petit une réflexion qui se fait dans les pays occidentaux.
Eh ben merci beaucoup Bernard Hugeux de venir un petit peu nous secouer au moins une fois l'an pour nous réveiller au moins sur ces sujets. On va redonner une dernière fois cette adresse email en invitant évidemment les auditeurs à vous soutenir. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure avec 15 euros, avec 10 euros par mois, eh bien vous pouvez accueillir un enfant dans un centre ou une femme victime de violence. Voilà, vous soutenir donc avec cette association Germe d'espérance, germe avec un S, germe d'espérance tout accroché @gmail.com. Si vous n'avez pas réussi à noter et si vous n'avez pas d'email, et bien vous appelez tout simplement la radio et on se fera un plaisir de vous mettre en lien avec cette association au numéro de téléphone suivant 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Merci beaucoup Bernard Hugeux.
Plaisir.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.